Est-ce que... Alors, j'attends que ça, les choses apparaissent normalement de mon côté. Voilà. Alors, je vais être dans un dispositif beaucoup plus classique, un peu de lecture, parce que j'ai été enthousiasmé en même temps. Je me dis que je vais avoir très peu de temps, voyant Mathieu. Donc d'abord, je vous prie de m'excuser parce que je suis juste venu finalement quasiment pour parler. Donc pour prendre la parole, et je n'ai entendu que deux interventions qui m'ont fait comprendre combien il y avait de liens et combien, si j'avais eu les autres interventions, j'aurais eu encore plus de travail à faire. Et c'est terrible parce que je ne vais pas pouvoir leur répondre alors qu'il y aurait tellement de choses à dire sur l'immersion, sur la ville, sur tout ça. Et donc je pense que la bonne formule, ça aurait été plutôt de parler dans une semaine. Ça aurait le temps de digérer les choses plutôt que de commencer comme ça directement. Bien sûr, je remercie Arnaud et Pierre qui m'invitent un peu de journée en journée de manière assez étrange, puisqu'au fil du temps, il y a une espèce de dialogue silencieux qui se crée et dont peut-être un jour il faudra essayer de faire le compte pour savoir pourquoi on s'est rencontrés autour de ces questions. Alors, je vais tout de même commencer. Alors donc, comme à mon habitude, je vais être écartelé entre mon travail d'artiste visuel, qui doit présenter ses productions comme autant de preuves de fulgurance intuitive, et mon activité théorique, qui se doit d'expliquer clairement et souvent laborieusement ce dont il est question. Alors je ne vais pas revenir sur cette tension entre ces deux régimes fort différents d'adresse, où je devrais éviter le commentaire et la justification, d'un côté, selon le rôle que je prends. Elle est dans mon cas fondatrice, et je vais passer d'une place à l'autre sans transition aucune, puisque leur division me semble injustifiée. Alors, à lire le texte qui accompagne ces journées, j'entends une espèce de tension analogue entre, donc analogue à cette division entre artistes et théoriciens, en ce qu'ils tentent d'interroger les machines en tant que médiatrices d'imaginaire. Ce qui devrait s'entendre au moins dans deux sens. D'une part, comment les machines, en tant que support d'inscription, modifient matériellement l'imaginaire et influent donc techniquement sur les fictions. Ce fut l'une des grandes questions de la fiction dite interactive de Paris-Huyn pendant des décennies. Et puis d'autre part, comment les machines sont imaginées dans les fictions et permettent à la manière d'image de proposer des figures inédites. Donc notre imagination médiée par la machine et la machine médiant notre imagination. D'un côté la technique matérielle, de l'autre donc l'image mentale. Je vais tenter de proposer une hypothèse très hasardeuse et très lacunaire que je n'aurai bien sûr pas le temps de... J'aurai pas le temps d'aller jusqu'à la fin, mais ça c'est mon habitude. Pour expliquer comment ces deux aspects sont structurellement solidaires et sont en fait un seul et même problème, en abordant de front et en prenant quasiment au pied de la lettre le titre « Des machines imaginantes de fiction ». Par là, je vais entendre que des machines seraient douées d'une faculté, l'imagination, habituellement attribuée à l'être humain par l'être humain. L'imagination serait alors devenue une espèce d'exo-faculté, poursuivant et intensifiant le chemin ouvert par Stiegler, en tout cas une partie du travail de Stiegler, la technique en tant qu'exo-somatisation. Certains auront compris que je continue le chemin que j'avais commencé lors de la précédente journée sur la sensibilité. Alors, est-ce qu'on perdrait là l'espèce de médiation dont le titre de la journée de cette journée fait part, pour lui préférer une structure autonome, la machine devenant capable sans nous d'imaginer, et on reprendrait là à notre compte les fantasmes diffusés par les médias de masse. Alors, nous savons d'avance que tel ne sera pas le cas, ce ne peut pas être le cas, mais qu'en tout cas par cette spéculation, il me soit permis de rendre sensible que notre imagination elle-même, celle qui est dite humaine, n'est jamais ni autonome, ni notre propriété. Alors de quoi vais-je parler, finalement? Je vais parler de deux choses. D'abord, le sous-titre de mon exposé fait référence bien sûr à la critique de la raison pure de Kant, et en particulier à la préface de la première édition de 1781, pour des raisons qui, je l'espère, deviendront un peu plus claires au fil de mon développement, et j'entends bien que là, ça ne l'est pas, c'est juste annoncé. Quant à l'artificiel, à la machine, et bien sûr, si je mets ces oiseaux rouges à côté de Kant, c'est pas pour rien, hein, le rouge-gorge de l'Aufklärer et du petit sifflet qui fait semblant d'être un oiseau. Donc, quant à l'artificiel, à la machine, à la technique dont je vais parler, cela n'étonnera personne de savoir qu'il s'agira des réseaux récursifs de neurones, des CNN, des GAN, des auto-encodeurs variables ou pas, du deep ou machine learning, tous ces noms absolument barbares, qui sont à mon sens l'occasion d'autre chose que la simple instrumentalité technique. La difficulté sera donc double, vu le temps dont je dispose. Manipuler le corpus kantien, et en particulier la complexité du rôle de l'imagination transcendantale dans la critique de la raison pure, et parler de techniques qui sont sans doute connues de certains ici, mais qui gardent tout de même une certaine opacité pour d'autres et pour moi-même, et que je ne pourrai pas expliquer dans le détail, ce qu'il faudrait. Alors j'espère donc que vous allez excuser mes terribles raccourcis. Et bien sûr, il faudrait un livre pour cela, mais comme pour chacun d'entre nous. Alors deux citations, une citation de Kant et de Baudelaire. Donc quand Kant parle de l'imagination dans la première édition, et ou du schématisme, parce que sur ce sujet il n'est pas très clair, il parle d'un art caché dans les profondeurs de l'âme humaine, et puis quand il parle de... quand Baudelaire écrit sur l'art, Baudelaire écrit « mystérieuse faculté que cette reine des facultés. Elle touche à toutes les autres, elle les excite, elle les envoie au combat, elle leur ressemble quelquefois au point de se confondre avec elle, et cependant elle est toujours bien elle-même. Elle est l'analyse, elle est la synthèse, elle décompose toute la création, et c'est là où il faut commencer à entendre les choses, et avec des matériaux amassés et disposés suivant des règles, dont on ne peut trouver l'origine que dans le plus profond de l'âme, elle crée un monde nouveau, elle produit la sensation du neuf. » Alors bien sûr, sur cette phrase, il faudra y revenir. Alors, l'objectif de cette première partie, qui sera peut-être la seule d'ailleurs dont j'aurai le temps de le dire, je le sens, sera de comprendre comment nous passons de la reconnaissance visuelle des réseaux récursifs de neurones, qui est une espèce de répétition assez réactionnaire, à la génération imaginative comme une différence sérialisée. Comment on passe de la surveillance à l'imagination. Alors, l'histoire de l'intelligence artificielle que je ne vais pas faire ici est, comme vous le savez, sédimentée. C'est une espèce de controverse entre, d'un côté, le modèle symbolique déductif et, de l'autre côté, le connexionnisme inductif. Le premier, qui va régner globalement des années 60 aux années 90, consistait à modéliser des règles du monde afin que la machine puisse reconstituer l'enchaînement déductif sur notre modèle, le modèle humain. Penser serait donc calculer des symboles qui sont en même temps une réalité matérielle et en même temps une réalité sémantique, et le rapport entre les deux serait assuré d'avance. Le second paradigme, qui est aujourd'hui celui dont on parle tout le temps, consistait, et j'en parle à l'imparfait, à considérer la machine comme un espace vide, capable d'apprendre par elle-même, à partir d'un très grand nombre de données brutes, un peu à la manière d'un enfant. Et cette métaphore de l'enfant, ou cette fiction de l'enfant, va être présente dès le début de la cybernétique. Alors, dans le modèle symbolique, un informaticien entre des données et crée un programme causal et conditionnel, il code, c'est un truc qu'on a tous fait, je pense, ici, ou quasiment, qui traduit nos connaissances dans un langage opérationnel pour une machine. Donc nous allons lui fournir des opérations, des représentations. Ça a amené au système expert et à leur incroyable échec. Dans le modèle connexionniste, un informaticien, ou d'ailleurs n'importe qui d'autre, entre des données, fournit les résultats attendus et laisse le programme apprendre comment il doit passer de l'un à l'autre. C'est donc la notion même de modélisation ou d'idéalisation qui se déplace. La machine n'a plus à être dressée par des règles. Il y a une part d'auto-apprentissage et d'auto-correction, puisque la machine doit prédire les résultats attendus et a les moyens de s'ajuster progressivement à cette corrélation. Vous comprendrez bien sûr le lien avec le propos de Mathieu, puisque là nous sommes non pas dans une description technologique, mais dans une fiction. Alors, cette manière de fonctionner a fait que ces ajustements des entrées et des sorties ont constitué des biais qui ont été largement critiqués, comme l'un des récits médiatiques dont, par exemple, le chatbot de Microsoft, en mars 2016, très connu, là c'est les images de Google, ces biais ont été largement critiqués, des biais racistes, genrés, etc. Or, ces biais, c'est le récit paradoxal, c'est un récit très paradoxal, parce que c'est du fait de la malveillance des interlocuteurs humains du chatbot, qui leur ont envoyé plein de messages racistes, que la machine a fini par déraper. Donc c'est le récit de l'innocence perdue, dans une espèce de morceau de cire. Le récit est d'autant plus paradoxal que la négativité de cette histoire et la négativité de toutes les histoires d'intelligence artificielle fut et sont médiatisées aujourd'hui par les entreprises qui développent ces intelligences artificielles. Ça questionne l'instrumentalisation du discours critique dans ce cadre-là. Alors, cette innocence. Alors, bien sûr, j'aimerais souligner que la différence entre les deux modèles, fut à mon avis au cœur de la première cybernétique, qui, nous le savons grâce aux travaux, à mon avis, très complémentaires de Pierre Kasounoguez et de Mathieu Triclot sur ce sujet, fut indissociablement une fiction, une spéculation et un souci. Alors de quel souci je veux parler dans la cybernétique? Par exemple, parmi tant d'autres, celui d'Alan Turing entre les deux versions du test. Bon, bien sûr, je ne vais pas revenir sur la première version du test de Turing, tant elle est connue, mais je vais parler de la seconde, qui est un peu moins connue, parce que pour Turing, la première version lui semblait un peu injuste. En effet, dans la première version, on demande à l'homme de jouer son rôle, alors qu'on demande à la machine de jouer le rôle de l'homme. Donc le jeu est joué d'avance, finalement. C'est le jeu de la représentation. Dans la seconde version, Le souci égalitariste ou, si on veut, indifférencié d'Alan Turing s'exprima ainsi. L'homme et la machine devaient, l'un et l'autre, faire semblant et se faire prendre pour une femme. C'était une espèce de jeu d'étrangeté généralisée des genres. Alors tous ces jeux et ces tests si fréquents dans la philosophie anglo-saxonne sont autant de petites machineries imaginaires qui nous proposent de penser le non-pensable, de déboîter à chaque fois la pensée, et qui ne sont pas sans rapport avec les développements concrets des technologies, qui partent en fin de compte d'expériences de pensée. Alors, le fameux perceptron de Frank Rosenblatt, dont tout le monde parle, fut entre 1957 et 1961 la première machine connexionniste fonctionnelle. Perceptron, quel nom magique pour un artiste. Très vintage, ça fait 13 années 80 le perceptron. Il s'agissait de douer donc la machine d'une fonction de perception, d'intuition au sens kantien, et d'un début de synthèse. Donc c'est là où je vais commencer à reprendre les catégories kantiennes. C'est-à-dire de reconnaissance ou de surveillance. La machine devait être capable de reconnaître des signes grâce à l'induction statistique. Et en lui présentant un très grand nombre de données, on pouvait renforcer certaines fonctions et statistiquement lui permettre d'opérer une reconnaissance. Ceci se faisant par renforcement successif, en appliquant l'idée originelle de la cybernétique, l'une des idées, la boucle rétroactive. Voilà. Alors, bon, bien sûr, il y a des rapports avec la machine de Norbert Wiener, mais je passe. Alors, comment cette chose fonctionne ? Cet ajustement va s'accentuer jusqu'aux techniques actuelles et jusqu'à devenir une véritable schizo, au sens de la schizophrénie, dans le logiciel. Ainsi, un GAN, un Generative Adversarial Network, se dédouble entre un générateur et un vérificateur qui se battent l'un contre l'autre et collaborent ensemble, puisque les erreurs sont réintroduites dans le générateur. Or, les GAN sont précisément les logiciels qui, comme par hasard, sont les plus performants pour générer des images réalistes. Comme par hasard, c'est celle-ci et pas d'autres. Et je crois qu'il faudrait faire à un moment le récit de ces personnages logiciels, puisque tous les logiciels se racontent sous forme de fiction, finalement. Quand on parle d'un jeu, on fait une fiction. On parle jamais du jeu directement. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous parlais du perceptron capable de reconnaître des signes, c'est-à-dire, par exemple, de décrire ce qu'il voit dans une image, en comparant statistiquement cette image avec des millions d'autres images taguées. Et à présent, je vous parle de machines schizophréniques et fêlées, capables non seulement de surveiller, mais de générer des images. C'est-à-dire, à proprement parler, d'imaginer, au sens strict du terme. Comment une machine de reconnaissance, c'est-à-dire de répétition et de mémoire, devient-elle une machine générative, c'est-à-dire une machine de différenciation qui permet de poursuivre une série. Là, c'est un exemple, donc avec un projet qui s'appelle Deep Subtitle, avec le film canonique d'Antonioni, Blow Up, qui est passé sur un réseau de neurones qui décrit l'image et qui crée donc les sous-titres de ce film. Donc là, c'est un homme et une femme qui sont assis sur un canapé et l'homme semble triste. Bien sûr, la femme n'est pas là. Mais on imagine qu'elle pourrait être là. Ou on s'interroge, qu'a vu l'ordinateur pour croire que la femme était là ? Ou est-ce que c'est la femme, est-ce que c'est l'homme qui se souvient de la femme ? Et en fin de compte, quand on voit l'ensemble du film, c'est une version alternative du film. Ça ne raconte pas du tout la même histoire, mais l'histoire tient le coup. Pourquoi ? Parce que toutes les lacunes de l'histoire, on les comble. Et c'est dans ce dispositif anthropotechnologique, à mon avis, que les choses, comme une imagination, peuvent se mettre en place. Ou cet autre projet donc, que je suis en train de réaliser, qui s'appelle Nu. Et donc là, c'est un mélange en Big GAN, donc une manière encore plus réaliste de produire des images, entre des méduses et un écran d'ordinateur. Donc là, c'est une métamorphose entre un écran d'ordinateur et une méduse. C'est un organisme mixte. Alors, la reconnaissance perceptive s'est donc transformée en imagination générative. C'est ça la grande nouvelle en art, à mon avis. La grande surprise, pour moi, c'est que l'adéquation entre le monde et la signification permet en fait de multiplier les possibles à l'infini. C'est l'introduction d'une nouvelle forme de réalisme de la machine par le biais de l'imagination productive, qui permet concrètement de créer des images réalistes, ce qu'on n'arrivait pas à faire auparavant, à ma connaissance. On arrivait à faire des images vectorielles, mais pas des images réalistes. Et c'est quoi une image réaliste ? C'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui ressemble à ce qui existe. C'est une série qui se poursuit. Alors un autre projet, It's Not Really You, donc là, j'avais nourri... En fait, quand on nourrit un réseau récursif de neurones, on le nourrit avec un dataset le plus homogène possible, de manière à pouvoir faire un environnement, quoi, un espace statistique cohérent. Là, je me suis amusé à nourrir un réseau de neurones d'un dataset totalement hétérogène, le plus hétérogène. Donc, il a commencé à créer des peintures abstraites. Et j'ai repassé les peintures abstraites sur le premier logiciel que j'avais utilisé pour Blow Up pour donner le titre de la peinture. Et là, c'est un oiseau dans l'eau. Et bien sûr, il y a un phénomène là, esthétique, à mon avis, important, quoi. En tout cas, moi, qui me semble... Bonjour. Qui me semble important, c'est que finalement on s'interroge pourquoi pourquoi l'ordinateur l'a nommé comme ça. Et on commence à imaginer l'oiseau, sûrement dans la forme marron qui est en bas, et l'eau, bien sûr, les ondulations qu'il y a sur cette image. On commence progressivement à se mettre à la place de la machine. C'est-à-dire que l'herméneutique, l'automatisation de l'herméneutique, de l'interprétation, fait qu'il y a un entre-deux herméneutique qui se crée, où on se met à une place qui n'est pas la nôtre, qui est la place du logiciel lui-même. Alors, peut-être que certains d'entre vous anticipent déjà mon impossible projet, et vu l'heure, il est impossible, réélaborer de part en part la question transcendantale des facultés kantiennes, ni plus ni moins, en partant non pas de l'être humain, mais comme point de départ, en partant de la machine. Ou plus exactement, du couple anthropo-technologique. Car à analyser la manière dont fonctionnent très concrètement les réseaux récursifs de neurones, on y retrouve de frappantes ressemblances avec la philosophie kantienne. Alors, comment expliquer que l'insignifiance de l'induction statistique des machines soit capable de produire avec notre aide de tels et surprenants résultats? Comment comprendre le décrochage de causalité entre le calcul du programme et la complexité des facultés? Bien évidemment, souvent quand on parle de ça, on s'attaque aux résultats en disant c'est stupide au niveau des causes, en croyant qu'il y a une identité des causes et des effets. Et je pense que cette identité des causes et des effets, c'est-à-dire des causes du programme et des effets esthétiques, est absurde. Et c'est, en fin de compte, c'est une identité idéaliste. De quelle façon ces deux mondes irréductibles parviennent-ils à communiquer? Alors, c'est sans doute en ce point de passage que la critique de la raison pure, je crois, peut être vraiment précieuse. En effet, une faculté a toujours tendance à une certaine forme d'autonomie, dit Kant. Elle tente de se libérer tout en étant déterminée par ses intérêts pratiques et par le fait que ses intérêts pratiques la lient à d'autres facultés de manière ponctuelle. Alors, la question transcendantale, qui est cette question un peu tarte à la crème tout de même, est pour ainsi dire une espèce de métafaculté des facultés. C'est la nécessité en même temps l'impossibilité que les facultés ont de se reprendre elles-mêmes. C'est une connaissance de connaissance, pour le dire assez simplement. Alors, un autre projet, cette absence en 2012, donc c'était un logiciel que j'avais créé, vous le téléchargiez, vous rentriez votre âge, votre email ou votre courriel, et donc après, le logiciel prenait la main sur votre caméra, votre webcam, et prenait une photo à n'importe quel moment. Et vous envoyait cette photo à votre email dans un espace de temps égal à votre âge, au moment où dont vous pouviez recevoir votre image 20 ans plus tard. Répétant un peu l'expérience dans Lost Highway de cette image, de cette vidéo non destinée. Donc à un moment, vous deveniez, bien sûr, vous ne saviez plus qui vous étiez quand cette image avait été faite. C'est un côté assez effrayant de savoir que cet ordinateur peut nous observer. Alors comme dans la critique de la raison pure, l'auto-affection de l'esprit par sa propre activité nous révèle notre vacuité originaire et c'est une expérience relativement désagréable chez Kant. L'esprit semble chercher instinctivement à lutter contre cet état angoissant dans la mesure où l'acte synthétique de l'imagination, qui va répéter et différencier, hein, imagination de reproduction, imagination productive, précisément parce qu'elle est une impulsion, c'est dans la première critique de la raison pure, c'est l'imagination qui donne l'impulsion de la synthèse, hein, c'est le point de départ, en fin de compte, avant même l'intuition, relève d'un comportement qui est involontaire et nous dit Kant, dans la critique de la raison pure, le rôle de l'imagination, et c'est le mot qu'il utilise, est mécanique. L'usage est involontaire et mécanique. Par cet automatisme de l'imagination, l'esprit tente spontanément de résister à la fois à l'évanescence, à la contingence et à la confusion des impressions sensibles, à leur caractère, pourrait-on dire, bruité, qui s'enchaîne en lui en s'y opposant toutefois librement dans la mesure où cette spontanéité est aussi finalement une forme d'initiative. L'imagination n'est pas déterminée par la perception, c'est l'imagination qui détermine la perception. Ce qui, bien sûr, va faire peur à Kant. Et c'est pour ça qu'il fait à mon avis, la deuxième édition, c'est l'une des raisons, et qu'il intègre l'imagination dans l'entendement. Alors, Heidegger, j'aurais pas le temps de parler de lui. J'aurais pas le temps. Bon, voilà, j'aurais pas le temps. En tout cas, il dit Heidegger, tout de même, que l'imagination est le pouvoir de former originairement des relations. C'est-à-dire, avant tout élément qui est mis en relation. La relation est antérieure aux éléments mis en jeu. Bon. Ce qui est un lien extrêmement mystérieux, parce que si le point de départ commence là... Alors, on retrouve par là donc la pareidolie surinterprétative et psychédélique de Deep Dream, ce fameux logiciel de Google qui a fait les belles heures, à l'été 2015, a relancé l'intérêt grand public pour l'intelligence artificielle. Donc, en ce sens, une faculté est toujours l'image d'une faculté qui va avoir besoin d'objets intermédiaires pour se représenter. Alors, mon hypothèse, c'est bien sûr que cette image est devenue indissociablement anthropologique et technologique. Bref, que les technologies affectent le transcendantal et les conditions de possibilité. Ce qui, bien sûr, est assez étrange, puisque les technologies sont a posteriori. Donc comment les conditions de la connaissance et la condition d'exercice de la perception peuvent être affectées par une matière produite. Pourquoi ? Parce que cette matière produite est une matière produite et une idéologie en même temps. À mon avis, c'est l'une des raisons. Je passe. Alors, j'avais déjà parlé de l'expérience menée en 2011 à Berkeley par Jack Gallant, lors de la précédente intervention ici, où il s'agissait de reconstruire un film par le biais de l'activité du cerveau, en captant les ondes alpha et bêta, et les autres ondes. Axe de recherche qui a été depuis poursuivi par une équipe de Kyoto, avec des réseaux récursifs de neurones, et dont le travail a servi de base à cette installation de Pierre Huyghe à la Serpentine Gallery à Londres. Alors, ce qui semble remarquable dans ce récit, c'est précisément le décrochage entre la stupidité mécanique du procédé et le caractère absolument incroyable du résultat. Alors de quoi s'agit-il ? On fait donc, je le rappelle, on fait voir à des individus des films et on capte l'activité du cerveau, ce qui permet de réaliser un tableau de corrélation entre les images et les ondes cérébrales. Puis on fait voir un film au hasard à une personne et on capte son activité cérébrale. On superpose tout simplement alors toutes les images qui correspondent à la même activité du cerveau et on obtient non seulement une image qui ressemble. Et là, j'aimerais insister sur le mot « ressemble ». C'est la question de la ressemblance. Et l'image qu'il est effectivement en train de voir. C'est-à-dire que par l'activité neuronale, on arrive à voir ce qu'il est en train de voir. Mais il y a de surcroît, bien sûr, un point que j'avais déjà signalé, c'est que ces images ressemblent à s'y méprendre, et ce n'est pas le fait du hasard, à des images de William Turner. La question ne consiste pas donc à savoir si nous visualisons ce qui se passe dans le cerveau, ce qui supposerait une autonomie de celui-ci qui est réfutée par la possibilité même de l'expérience, mais de savoir ce que cette image du cerveau fait à notre cerveau. Alors, en poursuivant, bien sûr, l'hypothèse de Pierre Cassionnegez dans « Lire le cerveau », je suis exactement la même piste, nous sommes obligés de constater que le cerveau n'existe jamais seul. Il existe toujours de l'image, il s'agit toujours de l'image d'un cerveau, ou si vous préférez, d'un cerveau de cerveau. L'imagination de l'imagination, le cerveau du cerveau, l'humain de l'humain, la machine de la machine. C'est cette répétition-là qui me semble intéressante. Et c'est ce que nous apprend exactement la critique de la raison pure concernant les facultés. Elles ne sont jamais seules. Alors j'avais réalisé ce dispositif au Musée d'art contemporain de Taipei. Donc c'était une lourde porte de métal avec un capteur neurologique très simple qui détectait les ondes alpha et bêta. Donc quand on se concentrait, la porte bougeait, elle avançait. Donc on était dans une espèce de télékinésie. Alors les enfants qui jouaient à ça étaient complètement fous. Donc ça avançait réellement. Jusqu'à taper la porte, jusqu'à taper un mur qui progressivement au cours de l'exposition se détruisait. Mais bien sûr, l'intérêt du dispositif, c'est que pour avancer, il fallait reculer, et donc il fallait se détendre. Et donc on se détendait et elle reculait. Et donc on n'arrêtait pas d'alterner entre la concentration et la relaxation, et ce qui fait qu'on adaptait les conditions d'exercice de son cerveau à quoi ? À l'image qu'on se faisait de la manière dont une machine captait notre cerveau. Et on est tout le temps dans ces dispositifs-là, à mon avis, dans ces anticipations-là, et dans ces futurs antérieurs, dans ces choses où notre comportement est déterminé par l'image que nous nous faisons de ce que la machine se représente de nous. Alors, un exemple de cela, c'est l'histoire fameuse de Roman, qui est né en 1981, et qui était un brillant jeune homme moscovite, qui était brillé... promis un brillant avenir, et il est mort écrasé par une voiture le 28 novembre 2015. Son ami Eugenia, qu'on voit sur le côté, ne put accepter cette disparition et décida de créer un chatbot intelligent, entre guillemets. Donc elle va donner à ce chatbot comme nourriture tous les textes, tous les emails, tous les courriels, tous les chats, tout récupéré auprès de tous les amis de Roman. Et c'est la fondatrice de l'entreprise Replica, qui est spécialisée dans les chatbots. N'importe qui peut maintenant discuter avec ce chatbot et échanger avec cette trace vivante de Roman. Sa mère, d'ailleurs, la mère de Roman, parle souvent avec ce logiciel, qui lui permet de communiquer et de mieux connaître son fils jusqu'après sa mort. Alors on pourrait dire, mais... pauvre femme. Sa mère ne croit pas du tout que c'est Roman. Elle sait très bien que c'est pas Roman, c'est pas ça le sujet. Elle sait bien que ce n'est pas son fils, mais elle a alors accès à des traces de lui auxquelles elle n'avait pas accès de son vivant. Et là, on voit quelque chose qui est que l'imagination du big data, c'est-à-dire la convergence entre les réseaux récursifs de neurones et le big data, et que la grande explosion des machines connexionnistes, c'est lié au big data. C'est lié à l'hypermnésie de la mémoire. Et là, on voit apparaître une nouvelle figure de la résurrection, c'est-à-dire d'une forme très particulière de ressemblance. Et j'aimerais, j'ai pas le temps de le développer, mais souligner la résurgence du thème de la résurrection chez Ray Kurzweil, dans le cosmisme russe au début du XXe siècle, et chez Quentin Meillassoux. Il y a une drôle de résurgence de la question de la résurrection qu'il faudrait développer dans le contexte technoscientifique. Donc c'est bien la rencontre entre les machines connexionnistes et l'accumulation du big data qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, autre exemple, je ne pourrais pas parler autant de Kant que je l'aurais voulu, mais ce n'est pas très grave. Autre exemple de cette relation entre imagination artificielle et big data, donc j'avais récupéré une base de données de 20 000 rêves compilée à l'université de Santa Clara par Adam Schneider, deux psychologues, et William Domoff, et j'avais nourri un réseau récursif de neurones pour produire de nouveaux rêves. Alors, donc il y a une voix de synthèse qui lit ce rêve, et qui va chercher, selon certains mots-clés qui sont dans les rêves, des images sur Internet qui correspondent donc à ces mots-clés. Bien sûr, il y a des décalages, comme vous allez le voir, je vais vous lire un passage d'un rêve généré, il y a des décalages entre les textes et les images, le texte est incomplet, et il est illisible. Mais comme dans le cas du rêve, on estime que toutes les lacunes de sens sont une réserve de sens à interpréter, ça fonctionne assez bien. Donc, un extrait, et vous allez voir la relation avec Kant, hein. Je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai généré ce matin. Je ne peux pas voir et je dis, je pensais que je pensais, à la rue, dans une voiture, peut-être cette voiture. Je dis, je dois aller dans la rue. Je dis, je ne la connais pas, cette voiture. Je vois un moment, je ne peux pas être dans la chambre, je suis dans la rue. Je suis ennuyé et je regarde tout ce qui est autour de la voiture. Je dis, je dois aller dans la rue. J'ai dit, je ne peux pas aller dans la rue. Je dis, j'étais là. Je dis, je ne peux pas avoir à appeler pour aller dans la rue. Je dis, j'étais la voiture. J'ai dit, je pensais que l'endroit aurait pu être une histoire. Je vois un comptoir et j'étais supposé commencer à la voiture. Je dis, je dois aller dans la rue. Alors, voilà donc un texte généré par un réseau récursif de neurones. Alors, l'imbrication de ces machines imaginantes imaginées par nous, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, nous fait comprendre que l'imagination n'a jamais été autonome, n'a jamais été un pouvoir de création et n'a jamais été seulement subjective, mais elle est une hallucination contrôlée. C'est-à-dire, comme nous le promettait Kant, ce qui lie l'objet au sujet à partir de l'imagination qui est infondée, qui ne se fonde pas dans la perception, et qui ne se fonde pas dans l'entendement, et qui ne se fonde pas dans la raison. C'est plutôt la raison, l'entendement qui sont fondés par l'imagination que l'inverse. Le décrochage dans la causalité entre les causes d'un modèle statistique qu'on dit stupide et les effets sur nos propres représentations est déterminé par cette fêlure commune, la nôtre et la leur. On pourrait dire la nôtre en y incluant la machine, puisque nous sommes dans des dispositifs anthropotechnologiques, et nous en nous incluant dans les machines, puisqu'il y a le big data qui nourrit aujourd'hui les réseaux récursifs de neurones. Troisième partie que je n'aurai absolument pas le temps de faire. C'est dommage parce que j'avais à la fin un personnage, je fais un peu de teasing, qui s'appelle Gant, G-A-N-T, ce qui me faisait... Alors, je vais essayer d'arriver jusqu'à ce personnage. Alors, donc j'ai déjà dépassé mon temps, donc ça c'est écrit dans ma présentation. Et à peine ai-je commencé que je dois m'arrêter. Alors, j'aimerais vous proposer, face au discours critique dominant des sciences humaines qui dénonce l'aliénation de l'intelligence artificielle, un autre concept, donc l'imagination artificielle. Non pas au sens où les machines seraient douées de cette faculté, mais au sens où cette faculté a toujours été inextricablement technique et humaine. L'imagination artificielle, c'est l'imagination des machines et notre imagination à propos des machines. Et on ne peut pas distinguer les deux. C'est donc une certaine forme d'empathie pour ce qui n'est pas humain, ce qui ne l'est plus ou ce qui ne l'est plus. C'est aussi que la technologie est le lieu de rencontre entre, comme je le disais, la formation de la matière et l'idéologie ou une économie générale des affects et des représentations. Alors il faudrait reprendre là la question des formes symboliques chez Cassirer et le pathos formel de Warburg, ce que je ne vais pas faire, je vous rassure. Mais la représentation, on comprend, la question du mimétisme, du réalisme, cette vieille question qui est, à mon avis, la question principale de l'art et du monument aux morts, depuis les Égyptiens au moins, c'est la production de mondes possibles. L'imagination artificielle peut non seulement constituer une méthode pour expérimenter les allers-retours incessants entre l'être humain et la machine, qui sont des entités certes distinctes, mais toujours en relation, mais elle permet aussi de déployer une empathie, une perception, disons aux côtés de Jean-François Lyotard, une passibilité, pour l'à humain et non pas l'inhumain, que sont les machines et que nous sommes. Alors, à propos de cet à humain, alors, lorsque nous regardons cet ingénieur décocher un grand coup au robot de Boston Dynamics, nous sommes du côté de la machine, dans sa maladresse et dans sa quasi-finitude, dans ce mouvement de rattrapage. Une empathie contre nature qui ouvre, je crois, n'ayons pas peur des mots, une intuition de l'absolu. Et ceci est rendu possible parce que les facultés ne sont pas harmonieusement agencées pour accéder au monde, il y a une schise, une fêlure. Cette empathie est une forme de perception dont le fondement est profondément lié à l'imagination de l'âme humain. Un autre exemple de cette empathie, donc c'est Paint in Back, en 2014. Donc j'avais trouvé sur Internet des images de tournage de films avec des fonds verts. Et j'avais fait passer ça sur un logiciel, un réseau récursif de neurones qui fait du style transfert. Le style transfert, ça permet, on met une photo par exemple, et ça donne un autre style. Par exemple, ça fait un tableau à la Van Gogh. Et donc là, j'avais passé cette photo pour donner un style peinture. Donc la machine s'inspire des êtres humains pour mimer une peinture. Et ensuite, j'ai envoyé le fichier dans un quartier de Shenzhen qui s'appelle Dafan. Et Dafan, c'est le quartier où il y a le plus grand nombre de peintres copistes au monde. Et donc, j'ai payé un copiste pour reproduire l'image que je lui avais envoyée. Donc, peindre l'image que la machine avait imaginée que l'être humain pourrait faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, cette espèce de boucle rétroactive, c'est une adaptation très simple de la cybernétique, dans la production même de l'œuvre, dont la formule pourrait être, j'utilise ça encore de Lyotard, l'inconsistance conquise. Comment conquérir l'inconsistance ? J'en ai encore peut-être pour 5 minutes ? Non ? Ça va ?
Il n'y aura pas de gasson, par contre.
Alors, tout ça pour dire que, autre exemple de travail artistique, mais qu'il faut connecter à Kant et au fait que chez Kant, la perception n'est jamais complète. Donc ça, c'était un projet qui avait été fait à Kyoto dans le jardin très fameux de Royanji, donc un fameux jardin zen, 15 pierres. Où qu'on soit dans le jardin, on n'en voit jamais que 14, je veux dire, il en manque toujours une. Donc il faut se déplacer pour voir celle qui manque, mais quand on se déplace pour voir une qui manque, il y en a une autre qui manque. Donc il y a une divergence entre l'espace mental et l'espace matériel. Et donc j'avais eu l'autorisation de survoler ce jardin par un drone et de le numériser pour en faire un modèle 3D. Et après de faire un logiciel qui survole en temps réel, donc qui survole le nuage de points de manière constante et aléatoire. Ce qui fait qu'à un moment, je me dis, on verrait les 15 pierres. Mon hypothèse, c'est que quand on verra les 15 pierres par ce logiciel, il n'y aura peut-être pas de témoin humain. Et il n'y aura peut-être personne pour la voir et pour en être le témoin. Donc, l'un des rôles fondamentaux de l'imagination, c'est cette... Alors, je passe. Alors, donc, pour finir. Alors, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Alors, voilà ce que c'est que les réseaux récursifs de neurones, selon moi. Alors, l'imagination, donc, est une faculté qui permet de faire la médiation entre, chez Kant, entre la sensibilité et l'entendement. Voilà, c'est ça, son rôle, parce que la sensibilité et l'entendement ne communiquent pas. L'entendement, dans la première édition, ne communique pas. Et pour ça, il faut que l'imagination répète et qu'elle se différencie. Donc, en fin de compte, l'imagination qui produit de la ressemblance va faire quelque chose qui est un peu inconciliable. C'est-à-dire qu'elle va, elle va arriver à produire une représentation antérieurement à toute apparition de phénomène. Donc, c'est ça qui, et à mon avis, c'est la grande force de la critique des raisons pures, c'est de donner les fondements pour comprendre comment un réseau récursif de neurones arrive à produire des images, bêtement, que nous pouvons reconnaître, qui est un phénomène très étrange. Alors donc, voici l'histoire que j'aurais voulu raconter, et que je ne raconterai pas. C'est l'histoire de Gant, producteur d'une Terre seconde, d'une deuxième Terre, qui, je vous le dis au passage, sera donc exposée au Palais de Tokyo cet été. Et ce Gant s'interroge sur ses facultés, et il suivrait approximativement ce tableau fortement incomplet. Alors, donc c'est notre personnage Gant, avec d'un côté les facultés kantiennes, de l'autre les opérations d'un réseau récursif de neurones. Donc, dans un réseau récursif de neurones, c'est une proposition. Donc, on rentre un dataset, si possible, non structuré. Ça, c'est la sensibilité passive chez Kant. La sensibilité totalement passive. Ensuite, on vectorise l'espace, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de, comme tout est numérique, de le transformer en vecteur. Donc là, en fin de compte, c'est de la synthèse de liaison schématique chez Kant. C'est-à-dire qu'on va, reproduire des éléments, c'est-à-dire qu'on va, comparer, par exemple, les oiseaux, et on va comparer les oiseaux rouges et l'endroit des pixels. On va faire de la comparaison. Donc c'est de la liaison schématique, c'est exactement ce que raconte Kant. Et ensuite, il y a une synthèse de relations synthétiques. Là, c'est l'imagination productive. Et c'est ce fameux espace latent dont on parle beaucoup sur les réseaux récursifs de neurones. On dit, voilà, le grand black box, le grand mystère, c'est l'espace latent. C'est-à-dire cet espace vectorisé qui va permettre de générer, par exemple, l'espace latent de l'oiseau rouge, qui va permettre de générer une infinité d'oiseaux rouges. Et j'aimerais m'arrêter un instant sur l'oiseau rouge. On est dans une nouvelle période historique du réalisme et de la représentation qui fait qu'à partir de l'hypermnésie du big data et de toutes les datas qu'on a accumulées, il y a plein d'effets, mais un de ces effets, c'est de pouvoir, à partir de ces datas, pouvoir générer des images qui ressemblent à ces datas mais qui ne sont pas identiques. Et ça, c'est un moment capital dans l'histoire de l'art. C'est un moment extrêmement important. Donc cet espace latent, chez Kant, il y a une notion très bizarre, c'est la notion de diagramme. Que Kant n'explique pas tellement. Ce qu'il dit du diagramme chez Kant, c'est que, dans la critique de raison pure, c'est que c'est l'image de l'imagination, quoi, c'est l'imagination produit des images, mais sans représentation. Et à mon avis, ce ne serait pas très loin de l'espace latent. Ensuite, le conflit entre générateur et vérificateur, là, ce serait la synthèse d'unité, ce serait l'entendement. Et, c'est là où je voulais en arriver, la raison, parce qu'il y a tout de même de la raison dans tout ça, c'est le résultat. Et c'est quoi un résultat ? C'est pas seulement une image, c'est une image perçue par nous. Et c'est ça qui est fondamental dans les réseaux récursifs de neurones, c'est que leurs résultats sont toujours anthropologiques. Il n'y a pas de résultats autonomes, c'est des résultats perçus. Et le propre du réalisme, c'est qu'il y a, pour évaluer le réalisme, il faut bien une perception humaine. Il faut bien un monde. Et donc, ce serait une transformation très importante de la raison, de la rationalité. Ce serait une transformation fondamentale de la rationalité, puisque cette totalité que suppose la raison serait anthropologique et technique à la fois, et serait en même temps une machine et en même temps un être humain. Voilà globalement. Désolé.
Non, mais c'est à peu près...
Oui, c'est ça. C'est...
Merci beaucoup. Ouais. Donc maintenant... Oui.